Vous êtes sur RTL. RTL Soir.
L'alcool est désormais interdit sur le campus de Centrale Supélec. Décision prise après la mort de Hugo la semaine dernière.
Céline. Vous avez peut-être entendu d'ailleurs sur RTL ce matin le cri d'alarme de Philippe, son père. Il annonçait son intention de porter plainte contre l'école d'ingénieurs pour non-assistance à personne en danger. Hugo a été retrouvé sans vie. Il avait chuté de son balcon fortement alcoolisé. Un drame qui a, je cite, bouleversé. Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, a décidé d'interdire l'alcool sur le campus et plaide aussi pour davantage de pédagogie.
C'est un travail qui est un travail de responsabilisation de tous les acteurs, c'est un travail d'information, un travail de prévention, parce que vous avez raison de le dire, on va interdire l'alcool sur le campus et l'alcool sera consommé à côté du campus. Je crois que il faut que nous puissions tous ensemble porter le message qu'une alcoolisation massive n'a jamais été synonyme de fête.
Frédéric Vidal, invité tout à l'heure de RTL Midi.
La direction de l'école a pris acte de cette demande de la ministre. Dans un communiqué, elle évoque la problématique majeure que représente la consommation massive d'alcool chez les jeunes. Émilie Beaujard, vous vous êtes rendue sur le campus de Centrale Supélec à Gif-sur-Yvette pour RTL. Difficile d'aborder cette question d'alcoolisation. Vous vous êtes heurtée à un mur de silence.
Oui, regard gêné, sourire en coin. Les étudiants de Centrale n'étaient pas vraiment contents de me voir. Les rares qui acceptent de répondre démentent toute alcoolisation massive. Eux parlent plutôt de petits groupes d'amis qui boivent beaucoup avant les soirées, mais en dehors des murs de Centrale, plutôt dans les terrains autour du campus ou dans des chambres des résidences universitaires. Voilà pour les maigres commentaires. Pas question de ternir l'image de Centrale Supélec. Tous les étudiants renvoient vers la personne qui peut parler, la personne qui sait, c'est-à-dire le président du BDE, Paul Capuccio.
Nous sommes vraiment bouleversés par la situation parce que nous sommes tous persuadés que nous mettons en place un maximum de mesures pour éviter ce genre de situation. Et l'alcoolisation qui se fait dans le cercle privé, dans les logements privés des étudiants, nous on n'y peut rien. Après, tous les dispositifs sont mis en place justement pour faire en sorte que lorsque ça arrive, ces étudiants-là soient pris en charge. Ce qui a été fait puisque Hugo a été ramené chez lui par deux de ses camarades et couché.
Joint ce soir par RTL, le père d'Hugo demande à ce que l'alcool soit aussi interdit en dehors des soirées encadrées.
Merci beaucoup, Émilie Beaujard. Il a été entendu pendant plus de 5 heures par les enquêteurs. Jean-Luc Mélenchon dénonce à nouveau une opération de police politique, sauf que ce soir, Emmanuel Macron lui répond.
La Constitution est claire, l'institution judiciaire est indépendante, j'en suis le garant, n'en déplaise à certains. Voilà pour la mise au point du président de la République. Le leader de la France Insoumise lui était interrogé sur les deux enquêtes préliminaires qui visent son mouvement aujourd'hui. L'une sur des emplois présumés fictifs au Parlement européen, la seconde sur ses comptes de campagne lors de la dernière présidentielle. C'est dans ce cadre qu'ont été menées les perquisitions houleuses de mardi matin. Thomas Proto, vous étiez à la sortie de cette audition tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon dénonce toujours une opération de déstabilisation menée par l'Élysée.
Oui, le patron de la France Insoumise s'est de nouveau dirigé vers les micros à sa sortie de l'Office national de lutte contre la corruption. D'abord pour dire qu'il avait répondu à toutes les questions, ensuite que de son point de vue, il n'avait absolument rien à se reprocher, mais surtout, vous le disiez, pour dénoncer une manœuvre politique, un ordre donné par le pouvoir à la justice.
Tout ça, c'est ça la Macronie, hein. La nouveauté, la modernité, pouet-pouet, la rirette, c'est ça. Cette méthode d'acharnement, de l'utilisation de la justice, tout ça est incroyable. Tout le pays sait que j'ai été l'objet d'un abus de pouvoir caractérisé par un pouvoir politique aux abois.
En tout, 19 personnes de l'entourage de Jean-Luc Mélenchon ont été entendues entre hier et aujourd'hui. Audition libre à ce stade, sans conséquences judiciaires. Les enquêteurs ont à présent analysé toute la matière récupérée ces derniers jours en perquisition et lors des auditions. Ce n'est qu'après que la justice décidera si elle ouvre des informations judiciaires et procède à d'éventuelles mises en examen.
Thomas Proutot du service police-justice de RTL.
Tariq Ramadan sera à nouveau entendu par les juges d'instruction. Lundi, c'est une information RTL. L'islamologue mis en examen pour deux viols présumés souhaite s'expliquer sur les SMS échangés avec l'une des plaignantes qui attestent de relations sexuelles entre eux.
Les retraités étaient dans la rue aujourd'hui encore. Ils étaient plusieurs milliers à manifester contre la politique du gouvernement, Céline.
Oui, des rassemblements dans une cinquantaine de villes pour dénoncer une baisse de leur pouvoir d'achat. Elisabeth et René avaient pris place dans le cortège parisien cet après-midi, très remonté et bien décidé à se faire entendre.
On défend nos retraites parce qu'il y a eu l'augmentation de la CSG, 1,7%. C'est selon les retraites, entre 400 et 500 euros de moins par an. Oui, c'est énorme, hein, soi-disant pour aider les actifs. On aide les jeunes déjà en s'occupant des petits-enfants. Ça leur évite de payer des nourrices.
On le fait tous les jours. On a cotisé pendant 40, 42, 45 ans.
Et là, on en parlait ce midi, la taxe d'habitation. 30% on nous avait promis. Et c'est faux.
Donc c'est encore un mensonge,
oui, la taxe d'habitation. Recevoir, donc le...
Ça faut le dire et le répéter, c'est un mensonge. Et ben, on est 15 millions de retraités, 15 millions de personnes attaquées. Il faut qu'on soit tous dans la rue.
Témoignage recueilli pour RTL à Paris par Anaïs Bouissou.
Xavier Bertrand accuse le gouvernement de préparer l'assassinat de la scierie Ascoval de Saint-Saulve dans le Nord. L'entreprise est placée en redressement judiciaire et l'État, via le groupe Vallourec, en est actionnaire. Si l'État prenait sa part, l'entreprise continuerait à déclarer le président de la région Hauts-de-France. 281 emplois sont en jeu.
RTL soir, il est 18h08.
On va marquer une pause et dans un instant, les fast-foods épinglés sur le tri des déchets.
RTL soir. Il est 18h10, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal de Céline Landreau.
Les fast-food McDonald's et KFC dans le viseur d'une ONG, Céline, accusée de ne pas trier leurs déchets.
L'association Zéro Waste France a décidé de porter plainte contre deux établissements situés place de la République à Paris. Elle a examiné les poubelles des restaurants Jacques Serret et le constat est accablant.
Oui, papier, carton, paille, emballage plastique, boissons, restes de frites ou d'hamburgers, on trouve de tout dans ces poubelles. Thibaut Turchet, le responsable des affaires juridiques de Zéro Waste France.
J'ai pu prendre des photos de leur poubelle en salle où aucun tri n'est proposé. Et puis après, j'ai patienté place de la République pour voir les poubelles une fois qu'elles sont sorties sur l'espace public, que j'ai pu ouvrir et constater que, bah, conformément à l'absence de tri en salle, évidemment, tous les déchets sont mélangés et partent à l'incinérateur derrière.
Pourtant, la loi est claire, les poubelles de tri sont obligatoires dans les salles où le client débarrasse lui-même son plateau. Un décret de 2016 l'impose, comme le rappelle Zéro Waste France.
Ce que l'on voudrait, c'est que cela déclenche plus de contrôle de la part de l'État et puis qu'on puisse démontrer à terme que des établissements peuvent être condamnés pour défaut de tri.
Et ces deux établissements parisiens sont loin d'être des cas à part. Seuls 5% des restaurants McDonald's installés en France ont déployé le tri sélectif en salle. KFC, aucun. Et cela alors que la restauration rapide génère chaque année en France 183 000 tonnes de déchets d'emballage.
Merci Jacques Serret pour RTL. Il n'y aura donc pas d'enquête parlementaire sur les crimes pédophiles commis au sein de l'Église. La proposition des sénateurs socialistes a été rejetée.
Droite et centre s'y sont opposés officiellement pour des raisons juridiques, constitutionnelles. Bonsoir Dominique Tenza.
Bonsoir.
Mais en coulisses, la volonté, c'était aussi de ne pas froisser l'électorat catholique.
Effectivement, l'idée de convoquer un évêque, de lui demander de lever la main, de dire « je le jure », l'idée d'entendre des hommes en soutane venir raconter en étant filmés les abus dont ils ont été les témoins, ce scénario, vous l'imaginez, était difficile à concevoir pour des sénateurs de culture catholique, dont certains sont même des pratiquants. Il n'y aura donc pas de commission d'enquête, ce que regrette amèrement la socialiste Laurence Rossignol, ancienne ministre de la Famille.
Je pense que c'est une faute, une grosse faute politique et une faute sociale aussi. Comme si la droite avait eu peur de ce que l'on allait découvrir dans cette commission d'enquête.
Alors ont-ils peur, les sénateurs? Cherchent-ils à protéger l'image de l'Église? Le républicain Bruno Retailleau s'en défend.
Mais c'est absolument faux. La meilleure preuve, c'est que nous avons choisi précisément de créer, de lancer une mission d'information pour faire la lumière sur tous ces agissements qui sont vraiment des crimes.
Il y aura donc une mission d'information plutôt qu'une commission d'enquête, plus compatible avec la loi selon Bruno Retailleau. La différence, elle est de taille. Devant une commission, Alexandre Benalla avait été contraint de venir s'expliquer, de prêter serment, il n'avait pas eu le choix. Cette fois, personne ne pourra obliger les évêques à venir livrer leur vérité.
Merci Dominique Tenza. Et dans une dizaine de minutes, l'invité d'RTL Soir, c'est le cofondateur de l'association La Parole Libérée. L'Arabie Saoudite au banc des accusés après la disparition du journaliste Jamal Khashoggi.
Le ministre de l'économie français Bruno Le Maire a annulé son déplacement au sommet économique saoudien à Riyad la semaine prochaine. Londres a pris la même décision. Les deux capitales européennes parlent de faits très graves. Le journaliste saoudien critique du pouvoir a disparu le 2 octobre dernier après être rentré au consulat saoudien d'Istanbul, torturé et décapité selon les médias turcs. L'affaire fragilise Mohamed Ben Salman, mais pour Georges Malbruno, journaliste au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, le prince héritier saoudien est loin d'être déchu.
Le comité des sages de la famille régnante, un certain nombre de princes, bien sont réunis pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut traiter le cas Mohamed Ben Salman, mais comme il s'est accaparé tous les pouvoirs aujourd'hui, donc le retirer de l'avant-scène, ça va être quelque chose de compliqué. Cela étant, on a vu la semaine dernière, en fin de semaine dernière, le retour de son frère des États-Unis, qui est ambassadeur aux États-Unis et qui pourrait, d'après certains, justement, prendre un rôle pas encore de prince héritier, mais peut-être de vice-prince héritier. Ce serait une manière de préparer la transition, mais c'est loin d'être certain.
Le journaliste Georges Malbruno, joint pour RTL par Pierre Julien.
Et puis à la frontière du sport et de la justice, cette information RTL, l'Étoile Rouge de Belgrade va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Selon ses avocats, le club avait été accusé d'avoir truqué le match contre le PSG en Ligue des Champions. C'était le 3 octobre dernier. Une rencontre que les Parisiens avaient remportée 6 buts à 1.
Merci beaucoup Céline. Vous revenez tout à l'heure à 18h30.
À tout à l'heure.
Les clés pour bien comprendre l'actualité. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. On connaît désormais la carte des 15 000 nouvelle place en prison. La ministre de la Justice l'a présentée aujourd'hui. Alors, où sont-elles situées? Pourquoi ici et pas ailleurs, Cindy Hubert?
Eh bien, la carte n'a pas arrêté d'évoluer ces dernières semaines entre les élus qui réclament une prison parce qu'ils savent que cela va amener de l'emploi, entre ceux qui sont totalement contre et qui organisent des manifestations. Il a fallu faire des arbitrages en fonction des besoins, car il faut bien comprendre que toutes les prisons ne peuvent pas être construites au beau milieu des champs, loin de tout. Les structures d'accompagnement vers la sortie, par exemple, doivent être nécessairement en centre-ville, proche des services publics, pour que les détenus puissent travailler sur leur réinsertion. Bref, vous l'avez compris, la carte que la chancellerie présente aujourd'hui n'est qu'un brouillon, tout n'est pas tranché. Certaines villes sont officiellement désignées, Troyes, par exemple, ou Châlons-en-Champagne. Quant ailleurs, il y a toujours des points d'interrogation dans le Val-de-Marne, le Val-d'Oise ou encore la Seine-Maritime.
Mais alors, combien de places seront effectivement, Cindy, construites d'ici la fin du quinquennat?
7000. La plupart ont été lancés par le gouvernement précédent. Pour les 8000 restantes, ce ne sera pas avant 2027, sans compter d'éventuels revirements en cas d'alternance.
Merci beaucoup Céline Hubert.
RTL Soir, 18h15.
Vous venez de l'entendre dans le journal, la commission d'enquête sur la pédophilie rejetée au Sénat. Le premier invité d'RTL Soir, donc, c'est le cofondateur de l'association La Parole Libérée, qui a dénoncé les agressions du père Prena. Avec nous donc dans un instant, Alexandre Dussault et 16.
RTL Soir.